Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 17 février et je suis ravie de faire l'émission cette fois-ci vraiment dans le même studio avec Andy. Salut Andy.
Salut Marie, comment ça va ?
Eh ben ça va très bien, encore une fois décidément ton micro est très fort, tellement d'enthousiasme à venir ici, ça va très bien. Sachant qu'on a plusieurs sujets au menu de cette émission et notamment un reportage que tu as fait cette semaine.
Et oui, je vais vous parler d'un nouveau projet de comédie musicale pour l'association et lieu de création culturelle, La Grande Surface.
Oui, j'ai l'impression qu'en plus, il y a vraiment un projet participatif, vous entendrez ça tout à l'heure. Lui aussi essaie que ce soit le plus participatif possible. C'est un verbicruciste. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, un créateur de mots fléchés, il va nous expliquer justement comment ça se passe, comment on fait derrière les grilles que vous pouvez remplir peut-être toutes les semaines. Il s'appelle Julien Poirier, son pseudo c'est Jujubier et il nous explique tout ça, sachant qu'il a fait évidemment des grilles en rapport avec la Mayenne, avec de quoi apprendre aussi des choses sur le patrimoine local. Et puis on va poursuivre, comme chaque jeudi, hein, notre cycle de reportages Pensée locale avec la radio Radio Campus. Allez, comme ça vous avez bien compris, c'est une radio Radio Campus à Angers qui va nous parler et nous présenter le théâtre du champ de bataille qui a vraiment un impact sur la création culturelle dans la région. Ça, vous entendrez ça plutôt en fin d'émission. Mais d'abord, on va faire un point sur l'actualité avec toi, Andy. 40 lits sont fermés temporairement à l'hôpital de Cran.
Faute de personnel en nombre suffisant, l'hôpital du sud-ouest mayennais est obligé de fermer 40 lits au total sur les sites de Cran et Renazé. Les services de médecine, soins de suite et de longue durée sont touchés. Aucune date n'a été fixée pour un retour à la normale, mais la direction de l'hôpital assure que la prise en charge des patients pourra se poursuivre vers d'autres établissements de la région.
Un nouveau foyer de grippe aviaire détecté dans un élevage en Mayenne.
Après celui découvert le 28 janvier, ce mercredi, la préfecture de la Mayenne a pris un arrêté après la découverte d'un foyer de grippe aviaire dans un élevage avicole de Saint-Martin-du-Limay. Parmi les mesures, des panneaux influenza aviaire, accès interdit tout autour de l'exploitation, l'ensemble des volailles et autres oiseaux de l'exploitation sera abattu et leurs cadavres détruits le plus rapidement possible, tout comme les produits ayant quitté l'exploitation à partir du 8 février. Le repeuplement de l'exploitation sera autorisé au plus tôt 21 jours après la fin des opérations de nettoyage et désinfection.
La présidente de l'Agence nationale de la cohésion des territoires en visite en Mayenne.
Caroline Cailleux était hier dans le département. Elle a notamment visité l'espace France Service à Loiron-Ruillé, le futur pôle culturel Le 40 à Laval et a fait un point sur les grands projets de la ville de Laval en termes d'aménagement du territoire.
Et ça y est, on le sait, la flamme olympique pour les JO 2024 passera bien en Mayenne.
Le conseil départemental a donné son accord et a confirmé sa décision. Malgré un prix que certains départements comme la Loire-Atlantique ont jugé prohibitif, 150 000 euros seront déboursés pour le passage de la flamme et le choix du parcours au sein du département. On connaîtra le circuit précis lors du troisième trimestre 2023.
Et pour cet été, la ville de Laval et Laval Aglo proposent des emplois.
Plusieurs dizaines de postes sont à pourvoir, des animateurs, agents d'entretien, manutentionnaires, chauffeurs Reaper, aides à domicile ou encore infirmiers pour le CCAS. Les candidatures,
c'est pas grave.
sont ouvertes jusqu'au 15 mars sur le site de Laval Agglomération, rubrique offre de recrutement.
Valérie Ayé, députée européenne de la Mayenne, porte un rapport pour aider les anciens salariés d'Airbus.
Après le fort impact de la crise sanitaire sur le secteur aéronautique, l'Europe tend la main aux anciens salariés de poste qui n'ont pas pu être sauvés. Deux possibilités sont proposées par ce rapport. Dans le cas où les bénéficiaires ont souhaité accepter un nouveau travail, cette aide européenne prévoit une allocation mensuelle pour encourager leur réinsertion professionnelle en assurant un revenu décent. Dans le cas où les bénéficiaires ont souhaité créer leur propre projet, cette aide européenne octroie une prime de 15 000 euros par personne et prévoit aussi des formations pour aider à la création d'entreprises.
Et puis le repas des aînés de Château-Gontier aura lieu le 13 mars.
Et oui, un repas traditionnel sur le thème cette année de souvenirs d'antan est organisé pour toutes les personnes de plus de 65 ans. Il aura lieu à l'espace Saint-Fiacre sur réservation. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller vous inscrire à la mairie annexe jusqu'au 1er mars. Une participation de 12 euros vous sera demandée.
Et puis on en parlait en tout début de cette émission, un nouveau projet de comédie musicale pour La Grande Surface.
Et oui, Marie, après leurs deux précédents projets nommés Cendrillon et un film Belleville-les-Bains qui va d'ailleurs bientôt sortir, l'association et lieu de création artistique La Grande Surface met en place un nouveau projet, cette fois-ci donc de comédie musicale. Il s'étend sur 3 saisons, la première venant de commencer, dans laquelle est proposé des ateliers de découverte, de chant, de musique, de danse, etc. Mais je n'en dis pas plus et je laisse Valérie Berthelot, directrice artistique de la compagnie Arzigote, danseuse, metteur en scène et manipulatrice de marionnettes, ainsi que Laurent Ménez, comédien et coordinateur de La Grande Surface, vous expliquer un peu mieux le projet.
Alors, c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du CLEA, c'est-à-dire Contrat Local d'Éducation Artistique. On avait envie de continuer ce projet intergénérationnel, donc avec les habitants du Grand Saint-Nicolas, mais pas que. Et l'envie, c'était de monter une comédie musicale, de faire découvrir aux habitants du quartier différents champs du monde artistique, tant la musique que la danse, que la marionnette, que le théâtre. Notre point de départ, c'est le film Billy Elliot. L'idée, c'est de partir de cet enfant, donc Billy Elliot, qui a des rêves et qui, malgré toutes les embûches, va les franchir pour vraiment accéder à son rêve.
Puis on va faire aussi avec les gens qui sont là, leurs propres histoires aussi d'ailleurs. Donc ça va vraiment se créer, c'est vraiment une création. On part du plateau vide et de la feuille blanche. C'est ouvert des enfants de 7-8 ans jusqu'à pas d'âge. C'est ce qui fait la richesse de ces projets-là aussi, c'est le fait que se retrouvent ensemble dans les ateliers puis sur le plateau au final des enfants, des adolescents, des adultes. Et donc beaucoup d'échanges, etc. Par exemple, l'atelier de danse, peu importe le corps qu'on a, qu'on soit raide comme un manche à balai, comme moi par exemple, ou très souple, ou qu'on ait 10 ans, ou 60 ans, ou 70 ans, on peut venir. Et justement, Laetitia Davy, qui anime ce stage, cet atelier cette année, ça l'intéresse justement de travailler avec des corps différents, etc. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde en fait. Sur la première saison en tout cas, il y a effectivement des artistes du conservatoire. Il y a Laetitia Davy, Laurence Baroche, Anaïs Brio et Thia de la Maison. Sinon, il y a Lise Moulin, qu'on connaît avec Bretelle et Garance, ils ont leur local au pavement. Et aussi Johan Pencolet de la compagnie La Poupée qui Brûle, une compagnie rennaise. Et puis il y a les artistes de La Grande Surface. Mis à part Valérie et moi, il y a Virginie Fouchot, Lucie Rimbaud et Jeanne Michel. Le projet, il s'étend sur 3 saisons. Il commence en février 2022 et jusqu'en avril 2024, où il y aura la première représentation de la comédie musicale.
Et si vous êtes du Grand Saint-Nicolas et intéressé pour prendre part à cette aventure, une rencontre est organisée demain à 16h ou à 18h à l'occasion du spectacle de marionnettes des enfants du centre de loisirs Les Chemins pour échanger sur le projet. Mais si vous n'êtes pas disponible, pas de panique, vous pouvez tout à fait vous renseigner auprès des maisons de quartier de Saint-Nicolas et des pavements, ou alors tout simplement appeler La Grande Surface au 06 33 24 79 08. Et on va passer à l'interview de Julien Poirier, un créateur de mots fléchés. Mais avant, on va prolonger encore un peu l'univers musical avec Danger Mr. Robinson de Charles X.
No time, hope the devil don't find you. Put your soul on the line and a clock to remind you. Now it's dangerous, Robinson.
Shadows are lying,
and I'm getting this feeling that we're not alone.
I can feel a demon slowly, steady creeping, coming for your witness. There is no retreating. I can see you crumble. He'll pick up the pieces. He'll pick up the pieces.
Danger, Mr. Robinson.
Shadows are lying,
and I'm getting this feeling that we're not alone.
Shadows are lying,
and
time to play, you should have stayed down. I'm watching you waste away, there's no time to play, you should have stayed down.
C'était Danger Mr. Robinson dans la JT du local sur l'autre radio. On va parler effectivement de la création de mots fléchés et qui plus est de mots fléchés 100% locaux. Et plus précisément, donc, lui va se lancer dans la création d'un magazine de mots fléchés inspiré par la Mayenne et les Pays de la Loire de manière générale. Vous avez peut-être déjà fait des grilles dans des ouvrages sur le département. Et vous notez son pseudo de verbicruciste, Jujubier. Il nous raconte sa passion et l'envers du décor, la création même de ces fameux mots fléchés.
Je m'appelle Julien Poirier, mais mon nom d'auteur de mots fléchés, c'est Jujubier. Voilà, j'ai 34 ans, je suis originaire de Brulon, dans la Sarthe, à quelques kilomètres de la Mayenne, et je vis à Nantes.
Alors, auteur de mots fléchés, créateur de mots fléchés, comment vous est venue cette passion?
Moi, je remplissais des grilles de temps à autre depuis mon adolescence, sans être un féru, mais j'aimais bien ça. Et puis, il y a une dizaine d'années, avec une amie qui en remplissait aussi souvent, on en faisait ensemble, et j'ai eu l'idée d'en créer une. J'ai pris une feuille, un crayon, juste pour l'exercice, l'expérience. Et puis, voilà, ça m'a bien plu. Pour les définitions, le côté jeu de mots, moi, je suis pas un grand littéraire. Et après, c'est de fil en aiguille. C'est resté une petite activité très modeste pendant 7 ans, 8 ans. Et puis ensuite, j'ai eu l'idée de faire un premier livre, enfin on va en parler tout après, mais voilà, j'en ai fait de manière un peu autodidacte et de fil en aiguille mon métier. Voilà. Le cruciverbiste, c'est la personne qui remplit les mots fléchés, et celui qui crée, on parle du verbicruciste. C'est une question d'inspiration, c'est sûr, et de, je parlais des jeux de mots, c'est tout à fait ça. Après, c'est la langue française, elle est très riche, il y a beaucoup de vocabulaire, et puis on a la chance d'avoir des mots qui peuvent prendre plusieurs sens. En tout cas, c'est une chance pour le verbicruciste. Ce qui fait qu'on peut vraiment jouer avec les mots un peu comme une matière, finalement, qu'on va travailler, retourner, assembler avec une autre, et ça va donner encore autre chose que ce qu'on aurait pu imaginer à la base. Enfin, et c'est presque intarissable, finalement. Donc, après, l'inspiration, en plus, j'en suis encore au début, mes premières années, donc pour l'instant, je ne ressens pas de limite à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'il y a tout un monde devant moi. Et puis, je m'inspire, je consulte les dictionnaires existants, des vraies définitions, et j'essaie à partir de là de trouver des petits axes qui vont me permettre de détourner des sens de mots, tout ça, pour créer ma propre définition. Donc voilà, on va dire que c'est l'inspiration, elle est assez large, quoi.
Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas l'impression d'avoir fait le tour, justement, où vous disiez, non, c'est une source inépuisable?
Ouais. Alors, c'est vrai que c'est une question peut-être que je me poserai plus tard. Je dirais que pour l'instant, en fait, j'ai d'abord commencé par faire des ouvrages liés au département. Donc, ce qui fait que mes grilles, elles étaient aussi conditionnées avec une thématique. Il n'y avait pas que des mots locaux, mais j'en insérais dans chaque grille. Et là, le fait de passer sur un magazine où il y a des grandes grilles, alors finalement, là, je ne vous ai pas encore vraiment présenté, mais bon, je l'aborde déjà un petit peu. Là, je travaille sur l'aspect régional, il est en dehors des grilles, je vais revenir après. Et dans les grilles, là, c'est sans thème, mais avec une grande variété de mots. Et finalement, j'en suis encore au début, vu que là, c'est le premier numéro. Donc, je suis encore un peu assez loin de pouvoir dire que l'inspiration devient compliquée. Par contre, dans le temps, effectivement, c'est une question qui va se poser. Après, c'est aussi lié à la question du niveau. C'est-à-dire qu'avec les mêmes mots, on peut aussi modifier les définitions et les rendre un petit peu plus pointues. Donc, voilà, après, ça peut être une évolution possible dans le temps. Une fois qu'aussi le public s'est adapté à ma touche et à ma manière de faire, je peux aussi faire évoluer le niveau et les définitions. Donc, on peut réutiliser les mêmes mots, mais changer les définitions.
Et justement, donc, parlons de ce livre sur des mots fléchés spécial Mayenne et Sarthe que vous avez publié il y a 2 ans. Il y a aussi cette volonté, alors avec l'amour des mots, l'amour des jeux de mots, et cette volonté aussi de mettre en avant les patrimoines locaux.
Oui, c'est ça, oui. c'est le principe de mes différents ouvrages, dont l'édition Maine, Sarthe Mayenne. Donc c'est ça en fait, j'allie des grilles, des mots fléchés avec certaines références locales qui vont être liées au patrimoine de manière large. Hein. Ça peut être à la fois au patrimoine historique, ça peut être aussi des références géographiques, des communes, des personnages, de la gastronomie, donc c'est très varié, même des mots de patois aussi, plutôt sur le patrimoine immatériel. Et puis ça c'est dans les grilles, et puis en plus sur chaque grille est liée à un mot mystère lié à la région que je présente, enfin lié au département, que je présente en quelques lignes, et puis qui est illustré d'une page photo, donc il y a aussi toute cette découverte vraiment liée au patrimoine. Et ce mot mystère, pareil, ça peut être sur du patrimoine très varié. Donc voilà, c'était l'idée de ces ouvrages, et j'ai commencé avec la Loire Atlantique, puis la Sarthe Mayenne, et je me suis dit que j'allais faire tous les pays de la Loire, donc j'ai continué avec la Vendée et le Maine-et-Loire. Voilà.
Et alors, j'imagine que vous avez aussi fait des recherches plus spécifiques pour cet ouvrage-là. Qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce qui vous a intéressé?
Oui, c'est ça. Alors, sur chaque ouvrage, je découvre beaucoup de choses. Sur le Sarthe Mayenne, même si je suis originaire du coin, entre guillemets, ça reste un grand territoire. Donc, j'ai fait des nouvelles découvertes. J'ai notamment découvert en Mayenne par exemple le musée Robert Tatin, que je connaissais déjà mais que j'ai pu aller visiter dans le cadre de ce livre, et c'était une belle découverte. Ou après d'autres endroits où je connaissais pas forcément l'existence, comme la basilique de Pontmain ou même la Celle des Châteaux, qui est pourtant assez renommée mais qui est un peu plus éloignée du coin dont je suis originaire. Voilà.
Et donc ça, effectivement, ces ouvrages sont parus ces dernières années. Qu'est-ce qui vous a incité à passer le pas, à carrément créer votre propre magazine de mots fléchés?
Alors en fait, il n'y avait pas forcément de suite possible sur les ouvrages, puisque, bon, même si c'est pas exhaustif, hein, le patrimoine, il y en a beaucoup, ça aurait été pas si évident de refaire un deuxième numéro sur le même territoire. Et puis j'avais aussi envie de quelque chose de régulier, pour fidéliser aussi un public et de développer vraiment la touche mots fléchés. Donc on va dire, même si elle était déjà très présente dans mes livres, là j'avais envie de faire des plus grandes grilles, d'axer vraiment sur ce côté jeu de mots, tout en gardant l'aspect régional, mais en rééquilibrant un petit peu les choses, je dirais. J'avais envie de me concentrer aussi sur le contenu pour les ouvrages, vu que je fais aussi l'édition. Ça me demandait aussi d'aller à la rencontre de nombreux acteurs pour le côté aussi technique, de distribution, il y a l'impression aussi forcément, la communication, d'aller sur place pour aussi prendre des photos, tout ça. Alors c'était très intéressant, mais aussi assez lourd de changer sur chaque département. Et là, j'avais envie d'avoir aussi un titre qui soit en place sur toute la région. Et ensuite, une fois que c'est en place, j'ai vraiment à me concentrer sur le contenu, entre guillemets, ce qui est déjà beaucoup. Et voilà, donc c'est un peu les enjeux. Et puis voilà, de pouvoir en vivre dans le temps. Donc quelque chose de régulier, donc de périodique.
Et alors, plus concrètement, qu'est-ce qu'on peut y trouver dans ce magazine?
Alors, je dirais que le concept global, il reste celui des ouvrages, c'est-à-dire qu'il y a 50 grilles de mots fléchés et 50 mots mystères liés à la région. Donc là, on est sur les Pays de la Loire. J'ai, réparti équitablement entre les 5 départements. Donc, au niveau de la Mayenne, on a 10 références qui sont présentées en quelques lignes, et avec un mot à trouver qui est lié. Voilà, par exemple, là, si je peux vous en donner une devant moi, la première que je trouve. Bon, voilà, j'avais évoqué Robert Tatin, là, j'avais envie d'en reparler, parce que c'est vrai que c'est une référence centrale, mais sur des choses moins connues, ou un personnage beaucoup moins connu, quoique les Mayennais souvent le connaissent, c'est Jean-Claude Boutier, qui était un célèbre boxeur. Voilà, je présente un petit peu son histoire, et puis il faut découvrir son nom en remplissant la grille. Donc le principe au niveau régional, c'est toujours donc ces 50 mots mystères. Une partie d'entre eux sont illustrés d'une photographie, donc c'est moins présent que dans les livres, puisque là j'ai plutôt agrandi les grilles, mais je tenais quand même à ce qu'il y ait ces illustrations de certains endroits qui, ça peut aussi donner des envies de visite, par exemple. Et puis ensuite, l'aspect régional, il y a aussi un petit jeu fil rouge qui est présent au début du magazine, qui s'appelle Les mots à l'œuvre. Et en fait, c'est un principe de texte à trous où je reprends une œuvre d'un auteur de la région. Donc là, je commence par un auteur d'Anjou, c'est Joachim Lubellet, le poète. Et donc, on complète son poème en remplissant les grilles. Il y a des mots qui sont mis en évidence, et qu'on a trouvé ces mots, on peut compléter ce texte à trous. Donc ça, c'est un autre aspect sur la région des Pays de la Loire. Et ensuite, quand même, je dirais le principal, puisque ça reste un magazine de mots fléchés. Donc là, il y a 50 grandes grilles de mots fléchés, où là, j'ai vraiment accentué sur les jeux de mots. sans jouer sur le patrimoine, puisque c'est aussi un petit peu bloquant parfois pour les personnes qui remplissent, surtout qu'on ne connaît pas toute la région. Donc ça, c'est pour ça que ça, je l'ai vraiment ciblé sur la partie extérieure aux grilles, même si la grille permet de trouver la réponse régionale qui est liée. Par contre, dans les grilles, là, c'est plus varié, beaucoup de jeux de mots, de double sens, voire de l'humour, et j'essaie d'utiliser une grande variété de mots à découvrir, en faisant en sorte que ça reste le plus commun possible, mais avec aussi quelques mots plus méconnus pour les découvrir. Et voilà, il y a une touche personnelle d'auteur qui se ressent dans ces grilles. Ça, c'est un point assez important du magazine. Ouais.
Et comment elle se ressent justement cette touche, le fait que ce soit vraiment vous qui soyez derrière ces grilles de mots fléchés ?
Il faut savoir déjà que les mots fléchés, la quasi-totalité des mots fléchés que l'on trouve en presse, en magazine ou dans les journaux, sont faits de manière, je dirais, industrielle par des sociétés de jeux. Donc c'est fait de manière automatisée. Alors il y a des employés qui sont sur le logiciel, mais c'est vrai que les mots sont croisés automatiquement et globalement il y a une grande base de données de définition qui doit être renouvelée, c'est assez redondant, je dirais. Et qu'il n'y a pas de touche, on ne ressent pas une personne derrière, puisque finalement il y en a plein ou pas du tout. Là, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a quelqu'un, donc il y a une manière d'aborder, de dire des mots, les utiliser, qui est assez personnelle. Et puis, moi déjà, je croise, alors j'ai une aide logicielle, mais qui n'est pas totale, on va dire. Ça, elle peut me proposer des mots avec des contraintes de lettres, par contre, ça ne veut pas dire que les mots vont se croiser entre eux. Donc, globalement, je les croise moi-même. Et puis, au niveau des définitions, ça se ressent encore plus. Donc ça se ressent avec donc des mots qui ont, comme je disais, plusieurs sens. Alors je ne sais pas si je regarde juste devant moi, là, sans... J'ai une définition où il y a les deux mots dans les deux sens qui sont à trouver avec la même définition. On est avec habitué des poids lourds. Donc il y a le sens commun qui est plus au niveau du poids lourd, le camion, et la réponse c'est camionneur. Et puis dans l'autre sens, là, la réponse c'est hydrophile, qui est habité des poids lourds. Voilà. Donc c'est juste, là c'est assez simple à comprendre. Après il y en a qui sont un petit peu plus subtils avec parasite des feuilles, on pense au végétal. Et en fait les feuilles c'est aussi un synonyme populaire pour les oreilles. Et en l'occurrence le parasite des feuilles c'est l'acouphène. Souvent on me dit qu'on se met un petit peu dans ma tête, on s'adapte à cette petite ça suppose une petite gymnastique d'esprit. Parfois même il y a de l'humour. C'est comme ça que je dirais que cette touche se ressent par rapport au classique. Ouais. Ça reste accessible. J'ai des gens autour de moi quand je n'ai pas, voire peu, et qui sortent parce qu'ils ont réussi à prendre ma gymnastique d'esprit, donc avec un peu de persévérance, mais qui n'était pas forcément non plus trop contraignante, parce qu'il y avait ce côté un petit peu fun, je dirais, qu'ils sont vite devenus un peu accros. Après, le fait qu'il y ait ces jeux de mots, tout ça, c'est quand même plus adapté pour des gens qui ont l'habitude. Donc il y a les solutions, puis il y a aussi l'index de tous les mots présents à trouver, donc ça peut aider quand on n'est pas sûr.
Et donc, où est-ce qu'on peut trouver justement ce premier numéro de votre magazine ?
Alors, il est sorti en presse dans toute la région, donc c'est-à-dire qu'il est chez les marchands de journaux et dans les rayons presse des supermarchés de tous les pays de la Loire, donc en Mayenne, bien sûr. Il y aurait 3 parutions annuelles, donc le prochain est prévu pour le 13 juin, puis il y aura l'apparition d'octobre, et j'espère, puisque bon, il va falloir que les ventes soient quand même suffisantes pour que je puisse en vivre, hein, c'est une activité principale. C'est quand même un grand défi d'être le propre éditeur et auteur d'un magazine de mots fléchés. Je pense que c'est un cas unique en France. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres personnes qui fassent leur propre magazine de mots fléchés. Donc c'est un peu un défi, mais je suis content d'être déjà arrivé au bout, déjà de l'avoir concrétisé. Il est en presse et je suis content du résultat. Donc ça, c'est la première étape. Et puis maintenant, on verra la suite et si le public est fidèle.
Et pour retrouver ces ouvrages sur les mots fléchés en Mayenne ou bien même sur d'autres départements, vous pouvez aller sur la plateforme leslibraires.fr. Et pour suivre toutes ces actualités, il faut se rendre sur la page Facebook, tout simplement, Jujubier Verbicruciste.
Et tout de suite, notre cycle de reportage pensée locale, mais avant, petite pause en musique avec l'essor de Biche.
Ah,
C'était Biche, l'essor dans la JT du local. Vous êtes bien à l'écoute de l'autre radio et on retrouve notre cycle de reportages pensée locale comme tous les jeudis. Et on s'arrête à Angers aujourd'hui, zoom sur le théâtre du Champ de Bataille, un théâtre associatif mis en place par l'association Parole Déliée en 1996. À la fois lieu de résidence pour les compagnies de la région, salle de spectacle pour le théâtre contemporain, mais aussi espace de découverte avec des ateliers de théâtre. Reportage de Radio Campus Angers.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Dans le quartier Sainte-Thérèse à Angers se trouve le théâtre du Champ de Bataille, au détour de la rue homonyme. C'est un lieu de résidence pour les compagnies de la région Pays de la Loire, ainsi qu'une salle de spectacle dont la programmation met l'accent sur les écritures contemporaines. Florent Goulette, directeur artistique, m'ouvre les portes de ces espaces.
Comment ça va, vous voyez le chemin ?
Alors c'est un théâtre qui existe depuis une trentaine d'années, qui a été ouvert à l'origine pour vraiment aider les compagnies qui cherchaient un lieu de répétition, parce que sur Angers il manquait de lieux pour travailler tout simplement. Donc il y a une compagnie de théâtre qui a récupéré ce lieu qui était avant un cinéma mais qui n'était plus occupé. On a fait un lieu, un théâtre, et puis très rapidement là, a accueilli d'autres compagnies pour travailler, et puis rapidement aussi a imaginé des saisons pour accueillir le public. Donc ça c'était dans les années 90-92 vers là, avec un point central qui était le théâtre contemporain, les écritures contemporaines.
Il m'explique pourquoi le théâtre du Champ de Bataille fait le choix de soutenir les créations régionales grâce aussi à sa collaboration avec d'autres théâtres d'Angers et de la région.
C'est aussi parce qu'il y a un besoin pour les compagnies qui travaillent dans la région Pays de la Loire, à Angers particulièrement, besoin de lieux pour travailler tout simplement, pour répéter, pour être en résidence. Sur la région Pays de la Loire, c'est aussi pour nous être un lieu de découverte à cette échelle-là. Pour nous, c'est une stratégie aussi de faire découvrir la production des compagnies régionales, mais vraiment en gardant l'idée que ce ne sont pas des compagnies qui ont vocation à rester ici. Au contraire, l'idée, c'est qu'elles puissent aller voyager dans d'autres villes, etc., et tourner, montrer les spectacles. On travaille notamment pas mal avec d'autres théâtres en région, notamment à Allonne dans le 72, à Saint-Nazaire, à Nantes. On a deux lieux avec qui on travaille. On essaye de se mettre d'accord sur 1, 2, 3, 4 projets qu'on va soutenir ensemble. Ça facilite grandement le travail de la compagnie, puisqu'elle n'a pas besoin d'aller frapper à toutes les portes, mais nous-mêmes, on se met un peu d'accord. Bien évidemment, tout le monde rencontre les compagnies, mais ça permet d'améliorer nettement la qualité pour eux du travail, puis la production, parce que là, c'est des questions de sous, mais aussi de subventions qui sont facilitées, de suivi par les institutions qui sont facilitées, parce qu'on est plusieurs sur le même projet.
C'est ce qui s'est passé pour le spectacle « Demande à la poussière » de la compagnie Wales. Sa création et production ont été soutenues par le dispositif Premier Plateau de l'agglomération du Mans.
Là, typiquement, sur le projet de la compagnie Wells, c'est plutôt en Sarthe, effectivement, ce dispositif. On l'a juste accueilli en diffusion, mais il y a 2 ans, ils avaient fait une maquette pour montrer aux programmateurs. Donc, elle a été jouée au Mans. Et nous, on l'a accueilli aussi à Angers pour faire venir d'autres programmateurs. Donc, c'était une forme de soutien aussi à ce spectacle. On a un peu collaboré au dispositif.
À l'origine, le bâtiment qui abrite aujourd'hui le théâtre du champ de bataille avait été donné à la paroisse pour en faire un lieu d'éducation populaire. Cet objectif est maintenu encore aujourd'hui. Quand je m'y rends, c'est le moment d'un atelier de théâtre pour les ados du quartier.
L'action culturelle, ça sert à élargir les publics, c'est-à-dire pas accueillir uniquement les gens qui d'emblée sont intéressés ou ont les codes ou ont l'appétence ou la culture familiale, etc. pour aller au théâtre, mais accueillir tous les publics. Donc il y a une grosse part souvent avec les publics scolaires, mais aussi avec des associations de quartier, avec différents groupes où ça permet d'élargir le public et de remplir notre mission qui est de proposer des spectacles pour tout le monde, puisque on se revendique du théâtre public. Même si on est un théâtre associatif, on perçoit des subventions publiques parce qu'on cherche à remplir cette mission. Et c'est aussi pour les artistes une manière de travailler différemment le spectacle, parce qu'ils ne sont pas seulement enfermés dans la boîte noire pendant quelques semaines pour montrer un produit final entre guillemets, mais aussi les actions culturelles, la rencontre avec les publics, ça permet d'infuser le travail des artistes, que le travail soit alimenté parce que les différents projets qui peuvent être menés apportent. Ça, c'est très concret en jeune public, notamment avec les tout petits. Les artistes ont vraiment besoin à des étapes de travail d'accueillir des crèches ou des classes pour qu'on voit comment les enfants réagissent, comprennent, interagissent avec le spectacle. C'est aussi important, ils ne sont pas juste spectateurs à ce moment-là, ils sont aussi un peu acteurs du processus créatif. C'est aussi l'histoire d'ouvrir, de faire respirer le théâtre vers les publics et puis de faire en sorte qu'il soit accessible au plus grand nombre.
Pour plus d'informations, visitez le site internet champdebataille.net.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage de Sophia Pavanini pour Radio Campus Angers.
Que vous pouvez réécouter évidemment sur notre site l'autreradio.fr avant d'en retrouver un nouveau reportage Pensée locale jeudi prochain. C'est la fin de notre émission L'Agité du local pour ce jeudi 17 février. Salut Andy, bon week-end à lundi.
Merci Marie, et oui, bon week-end à toi aussi.
Merci, mais bon, le week-end va attendre un petit peu pour moi, puisqu'évidemment on sera là demain, mais surtout, restez avec nous, puisque ce soir à 19h, il y aura Ta Chambre, où les animatrices parlent de leur place en tant que femme et personne queer dans les espaces publics, et à 21h, All Blues. Et nous, on se retrouve bien demain à 12h15. Je vous souhaite une très belle journée.